que vous avez reconnu cette histoire, c'est quelle parabole? Ça vous dit quelque chose? La parabole des talents. Alors, vous aurez de quoi les enfants discuter après, éventuellement. Voilà, je ne sais pas s'il y a besoin d'une prédication après ça. Bon, ben, à dimanche prochain, les amis. Ok. Ben, en fait, je préfère l'appeler la parabole des serviteurs. Parce qu'il s'agit bien de leur comportement, de leur attitude dont il est question dans cette parabole. J'ai passé la vidéo au lieu de lire le texte biblique. Voilà, c'était une manière un peu plus ludique. Je pense que le texte, nous le connaissons presque par cœur. Donc la parabole parle plutôt de l'attitude des serviteurs plutôt que de la quantité de talents qu'ils ont. Parce que de toute manière, quelle que soit la quantité de talents qu'ils ont, les 5, les 2 ou les 1, ben, si le fruit avait été produit, la joie du maître aurait été la même. En tout cas, pour les deux premiers, c'est ainsi, et pour le troisième aussi, s'il avait fait fructifier son talent. Donc, je préfère l'appeler la parabole des serviteurs, car il s'agit bien de leur comportement. Donc, il y a un maître qui part en voyage, qui s'absente. Et pendant son absence, il s'attend, du verbe attendre, à ce que ses serviteurs accomplissent une mission, un service, un travail, une tâche qu'il a confiée à chacune et à chacun. Il y a trois serviteurs. Deux font leur travail et le maître en est heureux, on le voit bien sur la vidéo et le texte biblique souligne la joie du maître. Et puis il y a un serviteur qui n'accomplit pas le service que le maître aurait voulu qu'il fasse. Il ne se sert pas de son talent, il le cache, il l'enterre, et cela ne réjouit absolument pas son maître. Alors nous nous posons la question, qui est le maître, qui sont les serviteurs et quels peuvent être les talents? Vous allez m'aider. Le maître, c'est qui? C'est? Il faut parler plus fort. J'ai 65 ans passés, donc j'ai l'audition qui a fortement baissé. C'est qui? Non. Ah, c'est Jésus. C'est pas Dieu. C'est le Dieu incarné, c'est Jésus. Les serviteurs, c'est qui? Pardon? C'est nous. Écoutez, si vous voulez, c'est nous. Ce sont les disciples, hein? Ok. C'est nous. Et les talents, ce serait quoi? Les dons, les capacités, les compétences que le Seigneur nous a confiées pour que nous fassions notre boulot pendant qu'il est absent. J'y reviendrai. Alors, toute cette histoire nous raconte, au fond, ce qu'est le royaume des cieux. Cette histoire, cette parabole nous raconte ce que c'est que de vivre comme le royaume des cieux. Cette parabole nous raconte quoi faire alors que le Maître, le Seigneur, Jésus, n'est plus là, présent avec ses disciples. Alors que Jésus n'est pas encore revenu. Alors ce matin, je ne vais pas entrer dans le détail de la parabole, mais simplement indiquer quelques notions sur le mot « talent ». Le mot « talent » qui est utilisé par Matthieu et que le maître distribue, confie à ses trois serviteurs, c'est un mot grec qui, au départ, signifie « la balance ». Comme ça. La balance à peser, comme celle de nos grands-mères, ou des alimentations de nos grands-mères, de nos grands-parents. Une balance qui sert à peser, à évaluer, à mesurer. Et donc, petit à petit, ce mot a commencé à signifier non plus uniquement la balance, mais ce qui est aussi pesé, le poids d'une chose. Ce que l'on porte, ce que l'on transporte. Et alors, dans l'Antiquité, au temps de Jésus, le talent pouvait être trois choses. L'équivalent de 25 kilos, c'était un talent. Voilà, c'est quelque chose que je n'arrive pas à porter. J'arrive jusqu'à 24 kilos et demi, mais pas 25. Non, c'est trop lourd pour moi, 25 kilos. Donc, 25 kilos, ça signifiait aussi de l'argent qu'on pesait. Et un talent signifiait, grosso modo, 6 000 deniers. Et comme on sait qu'un denier, c'était équivalent d'un jour de travail pour un ouvrier agricole, donc un talent équivalait à 6 000 jours de travail. Donc les comptables parmi nous, j'en vois au moins là-bas, ça fait combien d'années de travail? 17 ans de travail. C'est pas moi, hein, c'est la calculette. Donc celui qui a reçu deux talents et celui qui en a reçu 5. 83 années de travail et de salaire. Ouf, ça fait beaucoup. Alors, petit à petit, donc 25 kilos de l'argent, et puis, avec l'influence du latin, le langage des Romains, le mot talent a pris le sens que nous connaissons le mieux aujourd'hui, celui de compétence, de capacité et de dons. Tu as du talent, ça veut dire tu sais bien faire ce que tu es en train de faire, super. Mais Jésus n'explique pas dans la parabole ce que sont ces talents qu'il confie à ses disciples. Il leur confie des talents pour accomplir la mission qu'il leur donne pendant qu'il est absent. Alors je vous invite, et vous allez me faire confiance, à faire un pas en avant et un pas en arrière par rapport à cette parabole de Matthieu 25. Pour essayer de comprendre ce que le maître absent veut que ses disciples fassent pendant qu'il est absent. Juste avant la parabole, Jésus raconte à ses disciples qu'il faut être toujours prêt pour aller à la fête de mariage lorsque l'époux va revenir. Et c'est donc cette fameuse parabole des 10 vierges. 5 qui sont prêtes et 5 qui ne sont pas prêtes. Pas prête à entrer lorsque l'époux arrive, lorsque le marié arrive. Et juste après notre parabole, Jésus dit à ses disciples qu'ils ont eu raison, ou il dit aux nations qu'elles ont eu raison de nourrir leur prochain qui avait faim, de désaltérer ceux qui avaient soif, qu'ils ont eu raison d'accueillir les étrangers ou de vêtir d'habits leur prochain pour qu'ils soient plus décents, de visiter les malades et les prisonniers. Et c'est cet épisode du jugement dernier où Jésus sépare ses disciples d'avec ceux qui ne le sont pas. Ainsi, les disciples ont fait à la place de Jésus absent ce que Jésus aurait aimé faire s'il avait été sur terre. Et c'est peut-être ça que de se préparer en attendant le retour du marié, nourrir, vêtir, accueillir, visiter le prochain. Parce que lui n'est pas là. Et si lui n'est pas là, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et ce quelqu'un, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Nourrir, désaltérer, accueillir, vêtir, visiter. Et pour accomplir cette mission-là, ou ces missions-là, Jésus a donné des talents à ses disciples. Il leur a donné des compétences. Et là encore, je vous invite à me suivre. J'aimerais nous faire comprendre et nous faire accepter, si je puis dire, que nous avons tous au moins 5 talents, 5 compétences qui vont nous aider à nourrir, à désaltérer, à accueillir, à vêtir et à visiter notre prochain pendant que le Christ, lui, est absent. Mais il va revenir. Et est-ce qu'on va le faire sourire? Est-ce qu'on va le réjouir, notre Seigneur? Ou est-ce qu'il va, quand il verra que nous n'avons pas utilisé ces 5 talents pour nourrir, désaltérer, etc. Alors j'aimerais nous faire reprendre conscience que nous avons 5 talents. Tous, toutes et tous. Depuis, nous avons la vue. Nous avons l'ouïe. Nous avons et le toucher. Est-ce que nous ne pourrions pas dire que ces 5 sens que le Seigneur nous a donnés à chacune et à chacun, est-ce qu'on ne pourrait pas les considérer comme des compétences, des talents qu'il nous a donnés pour mener à bien cette mission que de nourrir, que de vêtir, que de désaltérer, etc., etc., etc. Je pense pouvoir dire que le Seigneur nous a donné ces 5 sens pour nous aider à accomplir notre mission d'approche du prochain, de soutien du prochain, d'entraide au prochain. Le voir, pour le nourrir, pour le désaltérer, l'écouter avec nos oreilles, pour l'encourager, le toucher. Voilà, on est dans des distances, mais une bonne tape dans le dos, bien douce, on peut le toucher quand même. Hein, je peux ou je ne peux pas? Si je me suis les mains, ben oui, je peux. Hein. Le goût, alors le goût, voilà, on peut penser plutôt à la langue, aux paroles qu'on prononce. Ces cinq sens que le Seigneur nous a donnés. Comment est-ce que mes cinq sens peuvent m'aider à accomplir ce que le Seigneur m'a confié alors qu'il est absent et qu'il va revenir? Vais-je le réjouir ou vais-je l'attrister? Quelqu'un a dit, peut-on boire tout seul une bouteille d'eau quand mon voisin n'a pas assez d'eau à boire? Et quelque part, on rejoint cette prière de Michel Coast, lue au début par Jean-Luc. Cet isolement auquel il nous a invités, c'est justement pour pouvoir accueillir le prochain aussi. L'apôtre Paul nous le rappelle dans l'épître aux Galates, « Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, c'est cette justice, cette paix, cette joie. L'amour ne fait point de mal au prochain. Il est l'accomplissement de la loi. Et j'aimerais nous rappeler le verset de l'année, ce verset que les églises chrétiennes, plutôt les églises historiques chrétiennes, adoptent chaque année. Et celui de cette année, c'est celui de Luc et de Matthieu, qui est prononcé lors du sermon sur la montagne. Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Alors je nous invite, pendant le temps de prière que nous aurons tout à l'heure, je nous invite à vraiment placer nos cinq sens sous l'autorité du Christ, de ce Christ qui est absent et qui, pendant son absence, nous a confié une mission ou plusieurs missions, de les lui confier, nos cinq sens, pour qu'il les sanctifie et qu'il les utilise, ou qu'il nous pousse à les utiliser. Ce temps de prière, je voudrais l'introduire en nous rappelant ce qu'on a appelé l'éthique de John Wesley. S'il te plaît, tu vas projeter. Voilà. Et tu cliqueras quand je te ferai signe, s'il te plaît. Donc, évidemment, c'est traduit de l'anglais. C'est une traduction que j'ai faite il y a plusieurs années. Elle vaut ce qu'elle vaut. Peut-être que l'anglais parlera plus que le français à quelqu'un d'autre. Vous pouvez trouver ça dans les écrits de Wesley. Fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens que tu peux, de toutes les manières que tu peux, dans tous les endroits ou toutes les situations que tu peux, en toutes les occasions où tu peux, envers toutes les personnes que tu peux, fais-le aussi longtemps que tu peux.